Parce qu'on part de nous-mêmes pour prier. On constate l'existence des choses, de notre corps. On vit, on a des nécessités. On mange, on boit, on est malade, on vieillit, on s'habille. Mais surtout, on se parle. Voyez-vous, lorsqu'on vous fait des films sur les hommes préhistoriques, les hommes préhistoriques, ce sont des hommes, de vrais hommes. Pour utiliser toujours le même exemple, Yves Coppens dit « L'outil apparaît 20 000 ans avant Jésus-Christ » pour lui. C'est 20 000 ans avant Jésus-Christ. Mais l'outil, c'est la cause finale. L'outil, c'est l'intelligence humaine qui façonne un objet comme Dieu façonne la matière, le vivant, pour une forme. Le moustique pour nourrir les grenouilles, les poissons, les oiseaux, et le jour où on les fera frire, peut-être nous-mêmes. Mais les éphémères sont des insectes qui vivent que 24 heures, que Dieu crée à foison pour nourrir d'autres êtres. Dans une chaîne alimentaire qui est pleine d'intelligence et sans hasard. Eh bien, l'être humain, lui, il ne se comporte pas comme l'animal, il n'a pas que la nourriture en tête, il n'a pas que la protection en tête. Il a des affections qui dépassent la fidélité de l'animal de compagnie. Et la loi du sang, même si nous sommes pécheurs, elle est très forte. L'adoption est toujours quelque chose de difficile. Parce que le bébé, il vit, il enregistre immédiatement, mais parce qu'il a une âme, parce qu'il a un esprit. La première des prières, c'est le bébé qui a faim, qui appelle la nourriture. Et il n'appelle pas la nourriture comme un chaton, ou comme, le petit de la, truie, c'est le pourceau. Ils ont très faim, les pourceaux, c'est impressionnant. Une truie, ça, je ne sais pas, 10, 12 mamelles, hein, c'est très impressionnant. Eh bien, ce sont des mammifères comme nous. Il ne faut pas avoir honte. Il faut justement être très objectif dans la vie terrestre. Mais alors, l'enfant, lui. Mais l'enfant, il a un esprit immortel. Il a la capacité d'abstraire du réel. Il comprend les choses. Et il entre tout de suite dans une relation de désir, d'amour. Vous voyez, quand vous avez Freud qui dit que les enfants sont des pervers narcissiques, c'est terrible de plaquer sur des enfants des mots d'adulte. L'enfant, lui, il veut simplement manger. Il veut ressentir du plaisir. Il a un corps. Vous n'allez pas dire quand même qu'un chat est un pervers narcissique parce que il est content quand vous le caressez, ou un chien. Enfin, l'enfant lui-même a un corps animal, un corps de mammifère, et ça fait partie de notre vie. De nous laver, de nous parfumer, de manger des choses agréables. Si vous voulez, il y faut une raison pour se mortifier. Mais un bébé ne peut pas avoir, ou difficilement, avoir la conscience de la mortification, de la nécessité de se détacher, de ne pas trop prendre de lait, de ne pas, être trop choyé par sa maman, de prendre un bain trop agréable, Mais, si vous voulez, la première des relations, c'est l'enfant qui cherche. Alors, les médecins nous disent que les enfants voient très mal au début, pas très bien, et que les yeux ne sont pas terminés lorsque nous naissons. Aussi, on a l'estomac qui n'est pas terminé, paraît-il. Enfin, voilà, donc, bon, c'est la maturité de certains organes. Mais pourquoi dans les écoles actuellement on vous dit que Dieu n'existe pas? et que tout se fait par hasard, c'est pour nier la vérité naturelle que nous vivons dans toutes nos existences. On finit toujours par comprendre qu'on n'est pas seul au monde, qu'il y a des êtres autour de nous. Et si un enfant est très capricieux et très égoïste très tôt, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, toujours pas compris qu'il n'était pas seul au monde, hein, et que toute l'attention n'était pas nécessairement sur lui. Et c'est vrai qu'on prie mal lorsqu'on est très égoïste. On prie mal lorsqu'on est très capricieux. Mais on peut briser cet égoïsme et ce caprice quand on comprend que Dieu n'est pas notre ennemi et que nous pouvons entrer en relation avec lui pacifiquement et que nos exigences sont excessives. Parce que Dieu, lui, lorsqu'il a pris la décision de créer, il est sorti de son confort. Vous voyez, les êtres humains, lorsqu'ils prient, tous ces peuples à travers les siècles, à travers toutes les civilisations qu'on a pu voir, c'est une entrée en relation avec l'invisible, avec le puissant. Dieu reproche aux hommes de faire des idoles, c'est-à-dire des images, trop vite, et puis des fausses images. Vous voyez, Dieu n'est pas le soleil, Dieu n'est pas un arbre, Dieu n'est pas un crocodile, n'est pas une vache, n'est pas un ibis, n'est pas un babouin, n'est pas un lion, n'est pas... Vous voyez, dans la religion égyptienne, il y a des parties qui sont très fines et des parties qui sont très grossières. Et dans toute la théologie égyptienne, la démonologie égyptienne d'ailleurs plutôt. Alors, comment prier? Il faut d'abord vider de notre tête tout ce qui est du hasard. Il faut retrouver l'intentionnalité dans les choses. Il faut retrouver une volonté. Il faut retrouver ce qu'on appelle aussi la providence. Le hasard en philosophie, c'est la rencontre de deux chaînes de causes fortuites. L'exemple même du hasard, c'est la personne qui marche dans la rue et au même moment, au quatrième étage, vous avez quelqu'un qui arrose ses fleurs dont les pots ne sont pas très bien attachés et le pot tombe. Et vous alliez faire vos courses, vous arrivez et au moment où le pot tombe, votre tête est juste au-dessus et vous mourrez parce que c'était un bac Riviera en pierre. Et vous vous dites, mais c'est vraiment l'accident bête, idiot. Ça, c'est le hasard. Le hasard, c'est ce qui se passe rarement. Ut in pauceribus, en latin. Ce qui arrive rarement. Mais c'est quand même des choses qui se produisent et qui se rencontrent, qui se choquent et s'entrechoquent. Ce qui n'est pas par hasard, c'est ut in pluribus, c'est-à-dire ce qui arrive tout le temps. Si vous dites que le soleil se lève par hasard, ou si le soleil tourne autour de la Terre, quand même, si, rassurez-vous, si le soleil tourne autour de la Terre par hasard, non, c'est au moins la loi de la gravité. Ça arrive tous les matins, où tous les impressions de lever, et une graine, ça meurt et ça pousse dans de la terre et dans de l'eau, ou dans de l'eau et du coton, comme vous voulez, mais tout le temps. Donc les graines sont faites pour pousser. Oh mon Dieu, la graine a poussé! Oh, c'est quel incroyable hasard! Ben, non! À chaque fois que vous mettez une graine, sauf si elle était morte ou desséchée, ça pousse. Oh, tous les matins, je vois Incroyable comme l'évolution est arrivée à la vue. Non, les yeux ont été conçus pour voir. Mais voyez-vous, ça c'est le réel. Et ensuite, la providence, c'est quoi? C'est Dieu qui a fait en sorte que le soleil tourne autour de la terre, qui a une atmosphère, qui a des graines, des plantes, des bactéries, des insectes, des animaux, des oiseaux, des mammifères. C'est Dieu qui l'a décidé et qui l'a voulu, et ce n'est pas par hasard. Et donc, il y a un être qui fait ça. Ce qui fait que vous pouvez vous dire, non, je ne suis pas seul au monde. J'ai été créé. Mon père et ma mère ont été créés. La reproduction des mammifères dont usent mes parents a été voulue. C'est pas par hasard. Et ce qui fait que lorsque vous dépassez l'étonnement et la connaissance simple, vous voulez que ceux qui sont autour de vous vous expliquent le pourquoi des choses. Et une âme qui se développe, une intelligence qui se développe, c'est pourquoi? Tiens, pourquoi il est comme ça? Pourquoi il pleut? Pourquoi c'est vert? Pourquoi c'est rond? Comment ça marche? Alors c'est vers quel âge le grand pourquoi? Comment?
3 ans.
3 ans, hein? Ah mais c'est insupportable. Et pourquoi on mange? Et pourquoi ça se goût là? Et pourquoi c'est salé? Et pourquoi ça s'appelle sel? Pourquoi ça s'appelle sucre? Parce que ce sont de grands étymologistes, les enfants. À un moment donné, ils vont demander le pourquoi des mots, alors qu'ils savent parler. C'est leur langue maternelle. Vous vous rendez compte, sans grammaire, sans écriture, vous avez des enfants qui vous parlent le chinois. Oui. Et écrire le chinois. Écrire le japonais. Mais le japonais, paraît-il, vient du chinois. Ce qui est pour vexer les Japonais. Les idéogrammes sont inspirés d'un idéogramme chinois.
Ils sont venus, ils ont...
Et toutes ces conquêtes d'intelligence, lorsqu'on a fait les, lorsqu'on a de la terre a durci, et que plutôt que d'utiliser les cavernes, on a utilisé des briques. Lorsque les Égyptiens faisaient faire les briques de la terre mouillée avec de la paille mélangée, malaxée, qu'on faisait sécher au soleil et on faisait des murs. Eh bien, à un moment donné, si vous voulez, on n'est pas tous architectes, médecins, ingénieurs. La chose la plus importante dans nos vies, c'est pas de tout comprendre. C'est pas comment dire, de comprendre la fission nucléaire. C'est pourquoi mon père, pourquoi ma mère sourit aujourd'hui ou ne sourit pas. Pourquoi ils sont énervés. Voyez? Et ils vont revenir réfléchir sur eux-mêmes. Pourquoi je pleure? Et pourquoi je suis content? Et quand vous avez l'enfant qui est pas dans la conscience, voyez, qui est entre le caprice, l'acte raisonnable et tout ça, c'est impressionnant la manière dont il réfléchit sans arrêt. Et qu'il teste, justement. Mais quand vous avez des élèves de 8e et de 10e et qui testent leurs instituteurs, leurs institutrices, tous les mois de septembre, jusqu'où on va pouvoir aller avec elles? Elle sourit, elle sourit pas, elle est exigeante, elle n'est pas exigeante. Tiens, on peut faire avec elle ce que je ne peux pas faire avec mes parents. Tout cet exercice de l'intelligence. Eh bien, c'est la raison pour laquelle, à un moment donné, on ne peut pas échapper à la prière. À un moment donné, voyez-vous, on ne peut pas que parler aux êtres qui nous entourent. Leur demander de rendre des comptes, de nous expliquer. À un moment, on est seul. Alors, une des écoles de la prière, c'est de prier avec des adultes. Les adultes ont découvert que le monde n'a pas été fait par hasard et qu'il y a une intentionnalité dans la vie qu'il y a une providence et que Dieu est un être puissant qui s'intéresse à nous, qui nous fait peur, parce qu'on ne mange pas tout le temps, on est malade, on vieillit, on a des échecs, et on se dit comment ça se fait, puisqu'il y a tant de choses qui vont bien, et il y a des choses qui vont mal. Il y a des bonnes récoltes, et il y a des mauvaises récoltes. Il y a de bonnes pluies, et il y a des typhons. Et donc, les adultes se sont posés bien plus de questions que les enfants. Mes parents sont morts, mon frère est mort, mon enfant est mort. Et là, ils se sont posés 1000 questions. Pourquoi la mort ? Mais ensuite, ils se sont aussi quand même, ensuite, en même temps, ils se sont posés des questions sur le meurtre, sur les coups. Vous voyez ? Caïn a tué Abel avec une massue. Il l'a pas tué avec un fleuret, hein, ou une carabine. C'étaient les premiers hommes, avec leur intelligence et leur volonté, avec un langage infus, mais ça je ne le développe pas ce soir. Et donc, si vous voulez, l'être humain, c'est un être créé par Dieu et qui a pleine intelligence et pleine volonté. Et qui peut remonter à Dieu pour toutes les questions qui se posent sur sa vie. Et alors vous allez tricher avec des enfants, vous allez leur apprendre à prier. Vous allez leur révéler plus vite ce que l'être humain découvre lentement. Franchement, est-ce que vraiment on a manqué au respect de la liberté des Incas quand on leur a dit qu'il fallait arrêter de nourrir le soleil avec du sang ? Et que leur religion était mauvaise. Qu'actuellement, ça a fait les titres, vous avez une tribu amazonienne qui pratique l'infanticide parce que vous avez des chefs dans cette tribu qui sont impitoyables et qui se succèdent les uns après les autres. C'est une dictature, qui est peut-être communautaire d'ailleurs. Ils ont décidé que pour après tant de maisons, on ne bouge pas. Après 600 personnes dans l'ethnie, on arrête d'avoir des enfants et on les tue. C'est un ordre. On ne crée pas d'autres villages. On ne s'étend pas. Donc du coup, ça fait longtemps qu'ils sont dans leur lopin de terre. Hein. Ils ont aussi une superstition. Les jumeaux, c'est démoniaque. Donc ils enterrent vivant les jumeaux, ils ne posent pas de questions. Et donc vous avez un couple d'évangélistes, parce que vous n'avez pas un catholique qui oserait en 2018 essayer de dire qu'il faut croire en Jésus-Christ. Hein. Ah non, il faut respecter les droits de l'homme, il faut respecter leur liberté, ah moi je ne peux pas, c'est du prosélytisme, ah non. Donc là, ce sont de bons protestants évangéliques qui sont là, allez, crois en Jésus, sinon tu seras damné. Tu vas faire le mal, tu ne suivras pas la volonté de Dieu. Alors eux, ils ont été plus fins. Ils sont approchés de cette tribu, ils ont fait des petits soins, à 2 kilomètres. Voilà, ils soignaient des petites blessures, des petites... Alors peut-être qu'ils avançaient d'un millimètre chaque jour, vous voyez. Ils sont arrivés à un moment donné tout près de leur village, et à la fin, ils ont été adoptés. Mais ils ont vu ça. Donc ils ont vu... Ça, le bébé, floup, et hop, clouc, clouc, offert à l'esprit de la forêt, ou je sais pas quoi, mais bon. Tiens, on te le rend, c'était en surnombre. Oui. Alors, ils ont quand même des contacts avec la ville, et ils ont dit, finalement, on a observé que c'était un peu raide chez eux. Donc le Parlement a dû décider de savoir si on en est appliqué le droit pénal à cette tribu. Quand même. Oui. Ou alors il les affame, ou il les nourrit pas. Et vous avez comme ça deux jumeaux, ou un garçon et une fille qui devaient être abandonnés, et qui se sont débrouillés, qui ont vécu jusqu'à l'âge de 10 ans. Hein, à bouffer des racines et tout ça, ostracisés, parce que c'était plus le moment de les enterrer vivants. Quoi. Donc, et eux se sont exfiltrés, et maintenant ils vivent dans la corruption des villes amazoniennes. Ils vont se pourrir d'une autre façon, mais disons qu'il y a un problème. Et donc les fausses religions posent problème. Et nous, quand on apprend une religion à un enfant, on lui fait gagner des années et des années de tâtonnement avec notre intelligence et notre volonté qui peut pécher, c'est-à-dire choisir un bien apparent dont on sent bien qu'il n'est pas tout à fait bon, mais on le veut tellement. Vous voyez, lorsque l'enfant commence à mentir pour la première fois pour obtenir quelque chose, vous voyez, petit à petit, à un moment donné, il va avoir honte, il va se cacher. Quand quelqu'un vole pour les premières fois, vole, c'est pas l'enfant qui voit l'objet et fait oh. Ah, c'est pas à lui, il le prend, mais enfin il vole pas. Vous voyez. Au voleur, non. Mais quand la première fois qu'il le regarde à gauche et à droite, parce qu'on lui a dit ça tu touches pas, ça tu touches pas, ça tu touches pas, X fois dans les magasins et tout. Mais à un moment, il dit, c'est quand même méchamment intéressant. Il pêche. Il sait que c'est pas bien et il le fait quand même. Eh bien, voyez-vous, les fausses religions, elles sont infestées de péchés. Mais seulement quand vous avez l'éducation, quand vous avez les adultes, et quand vous avez des personnes parmi les adultes de bonne foi qui suivent une coutume, eh bien c'est un fait. Ça diminue la responsabilité d'ailleurs de l'enfant, de l'adulte. Mais on triche avec les enfants lorsqu'on leur apprend à prier. Mais c'est une magnifique et une très bonne tricherie. On leur fait gagner plein de temps, plein de tâtonnements de leur intelligence et de leur volonté. Donc si vous avez appris à prier par vos parents, ne vous plaignez pas. Oui, mais on priait très mal, on était là, il fallait dire à toute vitesse le Je crois en Dieu, le Notre Père, le Je vous salue Marie, c'était à toute vitesse, j'ai jamais apprécié, ça n'a jamais été dans une ambiance de recueillement, ça m'a dégoûté de la prière. Ah oui? Pourquoi? Vous n'avez jamais, vraiment jamais eu de moment de silence? Vous n'avez jamais été tout seul et vous ne vous êtes jamais posé de questions? Eh bien, j'ose vous dire, voyez-vous, que avant de mourir, le bon Dieu nous donne en tout cas toujours la grâce de nous recueillir et de prier vraiment. C'est vrai qu'il y a des personnes qui vont se dire, mais pourquoi vous me reprochez de ne pas avoir connu Dieu, ni prié Dieu, ni parlé à Dieu, alors qu'on n'en a jamais parlé? Dans ma famille, on m'en a jamais parlé. À l'école, on m'en a jamais parlé. J'allais quand même pas être comme ça, par une infusion divine. Il y a des enfants qui, quand ils rentrent dans des lieux religieux, sont intrigués, voient les autres prier et se disent qu'est-ce qu'ils font et réfléchissent. Mais là, maintenant, je voudrais atteindre justement la prière personnelle. Comment on prie personnellement? Donc je commence toujours par l'existence de Dieu et la création. Pourquoi? Parce qu'en effet, la première des prières, quand même, lorsqu'elle vous est complètement personnelle, au-delà de l'éducation, au-delà des exemples qui vous ont été donnés, c'est qu'à un moment donné, vous vous dites, enfin c'est important aussi de rechercher le bonheur, hein, dans la prière. Les païens veulent bien manger, être bien habillés, bien dormir et être en bonne santé, riches si possible. Ils n'ont pas tort, hein. Personne ne veut avoir la gale, personne ne veut avoir des insomnies tous les soirs. Enfin, il y faut une raison. Eh bien, voyez-vous, lorsqu'on prie, on rentre en relation avec celui qui a des réponses sur notre vie. Lorsqu'on n'a pas de réponse, ou qu'on s'ennuie, qu'on mange tellement bien, qu'on a de si beaux vêtements, qu'on a une belle maison, un beau palais, ça donne pas de réponse à un meuble, ça ne donne pas de réponse à un morceau de viande. Ça donne pas de réponse à un pantalon. Oui. C'est, on a des questions. On a forcément des questions. Et donc, parmi les premières questions véritables, c'est la paix en famille. Pourquoi, comme je vous disais tout à l'heure, pourquoi papa est de bonne humeur ou de mauvaise humeur, maman est de bonne humeur ou de mauvaise humeur? Pourquoi il y a un autre? Vous voyez, quand un enfant voit un bébé arriver, au début il est étonné, c'est amusant. Mais bon, si je vous dis des choses banales, mais c'est important. Si la maman s'occupe un peu trop du nouveau, lui moins, tout ça. On analyse tout le temps, on réfléchit tout le temps. Même la brute épaisse a des sentiments, des pensées, des volontés de comprendre. Et donc, nous-mêmes, lorsqu'on est confronté à notre... On réfléchit, vous voyez, vous allez voir un psychologue ou un psychiatre. Je ne sais pas si vous connaissez la différence. Un psychologue, c'est quelqu'un qui essaye de vous faire exprimer justement des pensées cachées, des peurs, des angoisses, qu'on appelle de manière plus technique des névroses. Celui qui s'occupe des psychoses, c'est plutôt le psychiatre, qui lui est médecin et s'est spécialisé dans les tourments de la pensée, dans l'imagination, dans la mémoire, dans les traumatismes, mais qui a l'autorisation de prescrire des médicaments, ce que n'a pas le psychologue. Le psychanalyste, lui, se tire sa méthode du freudisme, la plupart du temps, ou de Lacan, et lui fait parler, nous fait réfléchir, nous fait analyser nos vies, notre passé, notre enfance, il creuse, et parfois, par petites touches, il vous fait réinventer une partie de votre enfance. Et c'est là qu'il y a un problème dans la psychanalyse. Parce que vous, lorsque vous choisissez des souvenirs, et que ce n'est pas vraiment la réalité de ce qui s'est passé, vous vous mentez à vous-même et vous créez quelque chose. Il y a des personnes qui ont eu de vrais traumatismes, de vraies histoires, une vraie mémoire. Mais parfois, vous savez, des personnes qui réinventent leur passé. Et là, ils vous font payer 80 euros à la fin. Et vous ne comprenez pas. Le psychiatre, lui, c'est remboursé par la sécurité sociale. C'est moins douloureux. Et... Alors, qu'est-ce qu'il va vous dire le prêtre? Qu'est-ce qu'il va vous dire le sage du village? Qu'est-ce qu'elle va vous dire votre grand-mère? Elle va dire, tu as vécu cela? Des frustrations, des blessures, des tristesses? Est-ce que tu... Maintenant, connais la faiblesse de la nature humaine. Est-ce que toi-même, tu n'as pas fait des fautes? Est-ce que toi-même, tu n'as pas péché? Est-ce que tu pourrais éventuellement pardonner ou réclamer justice d'une certaine manière? Voyez, vous avez un prêtre, un moine, qui conseille à quelqu'un d'aller voir un psychanalyste. Mais cette psychanalyste, conseillée par un prêtre, est théoriquement chrétienne et pratiquante. Je ne sais pas comment elle a fait, je ne sais pas pourquoi elle a dit ça. Peut-être qu'il y a une explication, mais quand même, elle dit, pour guérir, il faut que vous haïssiez votre mère. Alors, attention, que vous vous souveniez du mal qu'a fait un père ou une mère, oui, peut-être, si c'est pour le purger, si c'est pour l'avoir, le constater. Mais haïr, c'est souhaiter du mal à quelqu'un. Et Dieu l'a interdit. Donc il y a un problème. Mais Dieu, justement, comment ça se fait qu'il nous fait une vie si compliquée? Dieu. On nous dit que Dieu est le Tout-Puissant. On nous dit que Dieu est le maître de la vie et de la mort. On nous dit qu'il y a une vie après la mort, donc on met des poteries et de la nourriture dans les tombeaux. Hein. Vous voyez. Les Romains, qui avaient un droit très développé, faisaient quand même des nécropoles. Les catacombes, ce sont des cimetières pour pauvres, creusés dans le ruf. Dans certaines catacombes, il y avait des petits édicules. Donc c'était des catacombes qui avaient fini par être creusées où des riches se faisaient enterrer. Mais sinon, les riches étaient enterrés dans des cimetières aériens avec des édicules. Et les nobles romains, les patriciens romains, faisaient une petite maison. Le mort était enterré dans la petite maison. Et il y avait un tube en cuivre dans la bouche du mort. Et sur le haut de la maison, il y avait une terrasse où régulièrement, il venait, la famille prenait un repas, et avec les morts, qui étaient dans la petite maison, mais dont les fenêtres étaient tellement suffisamment étroites pour que les âmes ne puissent pas sortir de la maison, et ils puissent s'y reposer, au lieu d'aller embêter les morts. Vous vous rendez compte un peu? Le grand Cicéron, il a vu ça. Oui. C'est impressionnant quand même. Et il nourrissait les morts, il mettait de la nourriture. On a découvert dans la nécropole du Vatican, Saint-Pierre a été enterré dans un cimetière aérien. Et ça a été recouvert avec des structures de briques et de la terre sur l'ordre de Constantin pour faire la basilique. Et comme les Romains sont extrêmement pointilleux, il a demandé aux familles des propriétaires des tombes la permission de recouvrir le cimetière de la basilique. Il y a un édit où il constate l'accord des... Enfin, je ne sais pas s'il y en a un qui a dit « Oh ben non !» « Non, non, moi je ne non, non, je veux pas. »« Mais tu veux pas ?» Eh bien, voyez-vous, dans nos vies, la relation avec Dieu, elle sera de notre enfance, de notre éducation, de notre vie personnelle, de nos épreuves, de nos peurs, de nos mémoires, de nos imaginations. Mais à un moment donné, la prière, elle ne sera pas que sociale. Et actuellement, on a détruit la prière sociale. C'est extraordinaire.